Alors, étude de l'Université Laval rendue publique aujourd'hui qui montre que le niveau de détresse, d'anxiété, de stress a évidemment, fallait s'y attendre malheureusement, considérablement augmenté depuis le début de la pandémie. Luc?
Bien, moi, je trouve que c'est un sujet extrêmement important, extrêmement intéressant parce que, puis je suis content qu'on puisse en parler, parce que j'ai eu la chance de me le faire expliquer en profondeur par d'excellents intervenants. Parce que j'étais de ceux qui croyaient que soit tu as un problème concret de santé, soit tu n'en as pas. Soit tu as perdu ton bras dans une souffleuse. Si tu n'as pas perdu ton bras dans une souffleuse, tu n'es pas malade, tu rentres punché. Puis j'ai eu un patron aussi dans l'entreprise privée qui pensait un peu comme moi. Puis vers 17h, si tu te levais de ton bureau à 17h pour partir, il disait « Ah, ben tu prends ton après-midi off, mais repose-toi. Demain, tu travailleras plus fort. »
Sympathique.
Puis, écoute, le même employeur, d'ailleurs, vers 17h, distribuait des tablettes de chocolat parce que c'est un peu le moment où tu as un cru. Puis souvent, quand les gens ont un cru, c'est un des motifs pour partir. Alors, en tout cas, en règle générale, là, je trouvais que c'était de la paresse. D'autant plus qu'il n'y a pas de signe extérieur évident pour un burn-out. Là. Puis on m'a expliqué que la dépression, puis c'est un terme que je préfère que la détresse, là, parce que la détresse, ça me semble intense comme mot, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus intéressant que ça. C'est comme si tu étais un bateau qui est pris dans la tempête puis que le capitaine perd ses lunettes puis le bateau perd son GPS en même temps. Et là, le gars va continuer de travailler, il va travailler plus fort que jamais, en fait, il va bouger dans tous les sens, mais il va s'obstiner dans la mauvaise direction, il ne pourra pas comprendre sa progression, il va multiplier des erreurs, il va se remettre en cause, puis au bout du compte, ben, il va arrêter de faire des efforts parce qu'il va se dire que ça mène à rien. Puis c'est ça la phrase clé, c'est en bout de ligne, là, il va trouver que ce qu'il fait sert à rien, il va trouver qu'il est nul, qu'il n'avance pas. Et ça, c'est ça la dépression, c'est l'impression que tu ne sers plus, que tes efforts ne servent plus. Puis c'est pour ça qu'on la voit pas. Les personnes en burn-out sont pas toutes des personnes fatiguées. C'est des personnes qui peuvent prendre un temps fou à revenir parce qu'ils ont perdu confiance dans leur capacité de travail. Et puis c'est ce que les psychologues nous expliquent, c'est que notre cerveau fonctionne comme une voiture sans chauffeur. Une voiture sans chauffeur, elle a plein de capteurs autour d'elle qui lui permettent de comprendre où elle va, comment corriger son itinéraire, comment corriger la vitesse, comment modifier sa conduite en fonction des signaux. Et il y a plein de signaux que tu ne reçois plus quand tu es en surcharge de travail ou que quand tu es dans une entreprise toxique ou quand tu es dans des situations particulières, puis je vais en parler après Alexandre.
Ouais. Alors, tu faisais référence tout à l'heure, Luc, à quelqu'un qui s'est arraché un bras, ça c'est simple, hein? Tu t'en vas à l'urgence, tu te poses pas tant de questions que ça. La détresse psychologique, ça englobe non seulement la dépression, ça englobe l'anxiété. Tu sais, quand les gens disent « je vais retourner au travail, mais j'ai peur de transmettre la maladie à ma famille, à mes parents », ça inclut le burn-out, ça inclut essentiellement tout ce qui cloche, tourne pas rond nécessairement dans sa tête. Pendant la pandémie, on a eu toute une campagne publicitaire du gouvernement du Québec. Tout le monde s'en souviendra parce qu'on l'a entendu ad nauseam, mais c'était formidable. On n'a pas besoin d'être infecté pour être affecté. Et là, on disait aux gens, parlez-en, consultez. Le problème aujourd'hui, c'est au Québec, la santé mentale, bien qu'il y ait eu toutes sortes de plans, bien qu'il y ait toutes sortes de bonnes volontés, on dirait que le plan d'action en santé mentale est pas clair. Par où tu rentres aujourd'hui si tu as un problème? De l'anxiété, là, tu vas aller où? Tu vas rentrer à l'urgence? En théorie, le guide dit, tu vas rentrer par ton médecin de famille qui, lui, après ça, va te recommander peut-être à un psychologue qui est supposé pouvoir faire de la thérapie comportementale. Tu vas pouvoir éventuellement être référé à un psychiatre. Tu vas pouvoir rentrer, peut-être que tu vas rentrer par le CSLC, CLSC. Est-ce que tu peux appeler la ligne santé pour info santé pour de la santé mentale? La réponse à cette question-là est oui. Mais la réalité, c'est que au Québec, on ne le sait pas. Et il va falloir, une fois pour toutes, qu'on se rende compte que être en santé physiquement et être en santé mentalement, c'est primordial. Et il y a des choses aujourd'hui qui avancent. On sent que les gens parlent plus. Moi, j'ai des conversations avec des chums de mon âge qui, après un petit verre de vin, me disent « Hey, Alex, tu sais, ça va pas super bien depuis 2-3 jours, là. Tabarouette, je me sens dépressif. » On en parle. Les gens viennent me voir, bien entendu, parce que j'ai navigué, malgré moi, à travers les périples de la santé mentale. Donc, j'ai l'impression que les gens viennent plus me voir qu'ils vont le faire avec d'autres. Mais je sens qu'on avance. Mais tant qu'on n'aura pas, et là, on a une chance, là. On a un Lionel Carman qui connaît très bien ce secteur-là, qui sait à quel point c'est important et qui est en mesure aujourd'hui de faire une vraie différence, de convaincre le gouvernement, de convaincre ses collègues de mettre un vrai plan en place pour la santé mentale au Québec.
Mais je reçois beaucoup de courriels et depuis la pandémie, c'est encore plus, là. Puis si j'avais à résumer, là, quand on parle de burn-out, puis d'anxiété, puis de fatigue, tout ça combiné, là, le cas qui revient tout le temps, c'est infirmière ou en tout cas quelqu'un vrai dans le réseau de la santé, monoparentale, avec deux enfants d'âge primaire, qui se demande si ça va avoir des vacances cet été, qui se demande si ça va avoir du temps pour s'occuper du Zoom avec l'école, ça se demande si ça va être capable de je dirais, avoir la charge mentale à 100 %. Elle peut pas voir son chum qui vit à une autre adresse puis à l'extérieur de la ville. En tout cas, ça n'a pas pu se faire pendant un bout de temps. Tu comprends, là? Tu mets tout ça ensemble, là. Ça se peut que tu sois fatigué au bout de la journée, là.
Ah oui, mais pas juste fatigué, parce que la surcharge de travail, là, quand je te disais qu'il y a plein de capteurs dans la vie, on mesure constamment notre niveau de santé sans s'en rendre compte, là. Par exemple, est-ce qu'on parle aux travailleurs de l'équipe autour de nous? On a des conversations avec des collègues, on a des conversations avec les patrons, on est content de nos résultats, il y a des clients qui sont satisfaits, on reçoit des encouragements. Il y a plein de choses qui nous disent qu'on va dans la bonne direction. Mais quand tu es en surcharge de travail et que rien ne va bien, là, tous ces capteurs-là viennent de tomber. Tu ne reçois plus aucun signe pour te dire que ça va bien, d'une part, que tu t'en vas dans la bonne direction, que vous travaillez en équipe, que c'est bien géré en haut, que le travail va finir par se régler. Tu as aussi une impuissance devant les résultats parce que il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de choses que tu as faites et ça n'a pas servi. Peut-être que toi-même, tu as transmis la maladie. Alors, il n'y a pas de résultats, tu te sens impuissant. Il y a la négation de tes valeurs fondamentales. Tu es là pour aider, pour guérir les gens. Puis là, c'est pas ça qui se passe. Puis tu es obligé de sauter le repas d'un puis de pas répondre aux appels de l'autre qui te dit qu'il a soif dans sa chambre. Il n'y a plus de sens à ton travail. Alors ça, c'est tout ça qui est l'environnement toxique. Là. C'est pas juste la surcharge de travail.
Je vais rajouter un truc, Paul, puis tu as mis un doigt sur un problème qui s'en vient. Là. C'est la chronique d'un problème annoncé. Le personnel de santé va probablement vivre des symptômes équivalent à des troupes militaires qui reviennent d'un mandat à l'extérieur, ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques. Et j'espère qu'on est en train de mettre un plan précis en place pour soutenir mentalement ces gens-là, parce que ça va être un énorme problème et ne peut pas se permettre d'avoir aujourd'hui des solutions en place pour ces gens-là qui ont fait des efforts extraordinaires pour nous aider.
Alors, je peux me permettre, Alexandre, oui. Pour le plan, je dirais, oui, d'abord, régler la surcharge de travail, puis après ça, des éléments moins évidents, comme par exemple la bienveillance des uns par rapport aux autres, la bienveillance des cadres par rapport aux employés, redonner du sens au travail, montrer qu'on s'en va dans la bonne direction, laisser les gens prendre des décisions, la communication, prendre le temps de travailler en équipe, ça va prendre ça aussi. Là. C'est pas juste une question d'horaire de travail.
Bon week-end à tous les deux, puis on vous retrouve lundi.
Bon week-end, Paul.
Il est 9h10 avec tout ça. Ça avance ce vendredi quand même, et on sait qu'on en a beaucoup parlé, il y aura des entraves en fin de semaine. Là. Il y a les entraves permanentes, les détours permanents, les chantiers permanents, les pistes temporaires, mais là, il y a Jacques Cartier, tu as Victoria tantôt aussi, là. Encore une fois, les travaux, là. Ouais.